Bonsoir à tous, merci d'être présents aussi nombreux pour une conférence assez tardive, dont l'intitulé... Désolé, j'ai toujours des problèmes d'intitulé, ne m'en veuillez pas mes chers invités. Donc intitulé et « L'anticipation est-elle morte ? Retour sur une manière française d'envisager le futur ». Un vaste sujet qu'on va aborder avec quatre auteurs que sont Jacques Barbéry, qui a publié plusieurs romans, dont un dernier à la Volte, dont tu vas me dire le titre, parce qu'au niveau titre à cette heure-ci, « Mémoire de Sam », qui était une coécriture avec Emmanuel Jouanne, et qui a commis d'autres ouvrages qui ne sont pas vraiment de l'anticipation et qui sont totalement délirants et qu'on peut apprécier avec beaucoup d'humour et un esprit assez décalé. À côté de nous, nous avons Jean-Marc Ligny, dont la carrière éditeur, dont la carrière de romancier n'est plus à faire, qui est passé par le fleuve noir anticipation, qui vient de clore une trilogie qui n'en sera pas une avec un dernier ouvrage qui s'appelle Semence.
Tout à fait. Trilogie sur...
En quatre volumes.
Voilà, en quatre volumes futurs. Futur. Pas trois volumes pour le moment.
C'est un peu de l'anticipation, mais...
C'est purement de l'anticipation. Et je le revendique haut et fort.
À côté de nous, nous avons Dominique Douet, qui est un vieil auteur de science-fiction, mais un petit jeune qui nous sort encore des nouveautés, dont La fenêtre de Diane, qui vient d'être publiée au Mouton électrique tout récemment. Et enfin, nous avons Gérard Klein, auteur, éditeur, anthologiste, mémoire vivante de la science-fiction, si tu me le permets, à qui je vais adresser une première question. L'anticipation, d'un point de vue éditorial, mais d'un point de vue du courant de la science-fiction française, c'est quoi ?
Alors, l'anticipation, le terme d'anticipation est un très vieux mot qui a eu des extensions dans le domaine juridique, dans le domaine théologique, enfin dans toutes sortes de domaines, avant de désigner une forme assez singulière de littérature. Ça veut dire voir ce qui va se passer, anticiper, essayer de prévoir ce qui va se passer. C'est pas inutile non plus pour les militaires, par exemple. Alors, je me suis penché récemment, dans le cadre d'un travail que je suis en train de faire, sur l'origine de l'usage en France du mot pour décrire ce qui allait advenir dans la littérature. Et grâce au ciel, mon ami Joseph Alterac, qui lui est une véritable mémoire, m'a immédiatement envoyé une page et demie de référence qui semble indiquer que dès le tout début du XXe siècle, et peut-être même un petit peu avant, on a utilisé ce mot, enfin ce terme, dans ce sens d'une prévision de l'avenir, y compris pour des œuvres qui ne se situaient pas dans l'avenir, ce n'était pas des années après leur écriture, mais dans le présent, ce qui m'a conduit d'ailleurs pour qualifier l'œuvre de Verne et un très grand nombre de romans entre le 19e siècle, enfin, et puis au minimum les années 1950, et même encore aujourd'hui, les qualifier d'anticipation dans le présent, c'est-à-dire dans un univers, dans un monde qui est celui du présent de l'auteur, intervient un objet, une machine, une idée, enfin le Nautilus, qui va d'ailleurs disparaître presque toujours dans le cas de Verne. Mais donc c'est une anticipation dans le présent. Et ce n'est pas spécifique, ce terme n'est pas spécifique aux Français, puisque les Allemands ont longtemps, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais parlé de Zukunftsromanen, de roman de l'avenir, qui a exactement le même sens qu'anticipation en français. Dans les années 20 et 30, le terme a été de plus en plus utilisé, en quelque sorte au dépit du très grand Maurice Renard, qui aurait souhaité une appellation plus large. Donc il a pensé à merveilleux scientifique ou à roman scientifique, enfin d'autres ont cherché d'autres termes. Et tout ça a été remplacé à partir des années 1950, du début des années 1950, par le terme d'origine américaine science-fiction, qui sonne très bien en français, et qui, à mon avis, englobe quelque chose de beaucoup plus vaste que l'anticipation. Ça englobe, dès qu'il y a un peu de science, ça englobe le roman préhistorique à la Roy Yenné, ça englobe évidemment l'anticipation dans le présent, ça englobe l'Uchronie, tous ces genres ne rentrant pas dans le terme anticipation.
Et du coup, je m'adresse plutôt à vous trois, plutôt auteurs encore en exercice, même si Gérard, tu continues à publier. Est-ce que vous vous considérez plus ou moins comme des auteurs anticipatifs, même si vous projetez sur des périodes beaucoup plus longues ou dans des espaces assez lointains? Est-ce que vous vous considérez comme des gens qui écrivent de l'anticipation ou purement de la science-fiction?
J'attaque.
Oui.
En ce qui me concerne, oui. Et je précise que j'adhère totalement à la définition de Gérard Klein. Pour moi, l'anticipation, c'est une branche de la science-fiction, tout comme l'Uchronie, tout comme le steampunk, tout comme le cyberpunk, tout comme toutes les étiquettes qu'on a bien voulu donner à de multiples branches de cet arbre foisonnant qui est la science-fiction. Et l'anticipation, effectivement, concerne une prédiction plus ou moins, je dirais pas exacte, mais disons sérieuse, de l'avenir. Principalement de l'avenir de notre planète, sur notre planète. Je ne considère pas qu'une série comme Star Wars, par exemple, pour faire dans le connu, soit de l'anticipation. Ou que, je ne sais pas moi, les romans de la culture de Ian Banks, par exemple, soient de l'anticipation. Parce que ça se passe dans un avenir lointain qui a une connexion avec notre réalité, bien sûr, comme tout roman de science-fiction doit être connecté avec le présent. Mais l'anticipation relève plus précisément d'une projection directe du présent vers l'avenir. Et en ce qui me concerne, quand j'écris ma trilogie climatique sur le réchauffement climatique et ses conséquences sociales, c'est purement l'anticipation. Et quand je vois que tout ce que j'ai décrit, certaines parties de ce que j'ai décrit dans quoi TM sont en train de se réaliser déjà, là ça vient vraiment de... Excusez-moi pour m'avoir cassé, j'ai la crève. Ça vient vraiment de l'anticipation à court terme. Voilà.
Non, moi je pense pas faire vraiment de l'anticipation. En ce sens d'aller sur le terrain de la prédiction, mais plutôt d'imaginer de façon plus fantasmatique le devenir des sciences ou de la technique, en me laissant une plus grande liberté et donc en situant cela dans des univers parallèles ou dans des univers virtuels, ou bon, de manière à ne pas être trop bloqué par les techniques et les sciences qui sont en train de se développer aujourd'hui. Et ce qui ne m'empêche pas parfois de tomber relativement juste, puisqu'il y a une trentaine d'années, dans la première publication de mon roman Narcose, je parlais d'écran mouchoir, donc c'était une image un peu fantasmatique, et aujourd'hui, le terme écran mouchoir a été un peu perçu comme quelque chose de surréaliste, mais en fait non, c'était juste une image qui aujourd'hui correspond à des écrans très plats qu'on fabrique et qu'on va pouvoir glisser dans la poche. Tout en étant beaucoup plus fantasmatique, effectivement la prédiction peut s'avérer juste, mais mon but c'est pas du tout de prédire quoi que ce soit, d'essayer d'imaginer ce que pourrait être le futur dans 10, 15 ou 20 ans. Je pense que c'est de plus en plus difficile. Les choses vont excessivement vite et je crois que imaginer aujourd'hui ce que pourra être notre civilisation dans 10, 15, 20 ou 25 ans me paraît vraiment un pari très dur, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je date rarement mes textes. Cette histoire se passe en 2015. Bon, lorsqu'on arrive en 2015, après, ça pose toujours un petit problème, quoi. Quand on vérifie ce qu'on a écrit et à quoi correspond la réalité, c'est toujours un petit peu embêtant.
Bon, alors, ce qui est, l'avantage quand on passe le dernier, c'est que tout a déjà été dit, donc on n'a qu'à dire. Là, je suis d'accord avec un tel. Bon, je pense que Gérard a eu un rôle important dans cette présentation, c'est de délimiter le domaine de l'anticipation à l'intérieur de la science-fiction. Et au regard de cette délimitation, je pense ne pas écrire de l'anticipation. Voilà. Mais je n'interdis pas à quiconque peut me lire de penser l'inverse. Mais mon désir, lorsque j'écris, n'est pas de décrire le monde le monde futur tel que je le vois. C'est plutôt de laisser libre cours à un récit dans une logique qui, elle, relève de la science-fiction. Mais je ne prétends pas, d'une façon ou d'une autre, anticiper sur un avenir que, par définition, je ne connais pas. D'autre part, je pense qu'il y a une autre frontière qui peut être intéressante à définir, c'est la frontière entre prospective et anticipation. Et alors là, si on définit cette frontière, il y aurait donc l'anticipation serait contenue entre deux frontières, d'une part la prospective, de l'autre la science-fiction au sens large. Si quelqu'un pouvait me classer dans l'anticipation, ce serait franchement du côté de la deuxième frontière.
Gérard, tu veux bien.
Oui, ce que je veux dire, c'est que l'anticipation n'a pas à se réaliser. Le fait d'écrire un monde, le nôtre, ou celui d'un autre pays, d'ailleurs, je ne sais pas, moi, en 2075 ou quelque chose, en 2084, pour avoir une terminaison qui sonne avec un livre un peu célèbre, ne signifie pas du tout que l'auteur prétend que ça va se faire. Et il y a un certain nombre de journalistes, pas très bons à mon avis, qui passent leur vie à dire mais les auteurs de science-fiction, et spécialement les auteurs d'anticipation, se sont trompés. Alors, dans le tas, ils ont parfois eu raison, ils se sont parfois trompés, mais ça n'est pas du tout un problème important. Hein. Une anticipation n'a pas à se réaliser, qu'elle se soit réalisée ou non. Ça n'a aucune espèce d'importance au total. Ce qui compte, c'est qu'elle représente jusqu'à un certain point ce que pouvait imaginer ou ce que pouvait fantasmer, parce que cette dimension du fantasme est très importante, son auteur, et accepter ses lecteurs à un moment donné. Enfin, je prendrai par exemple deux cas d'anticipation récentes, le Soumission de Michel Houellebecq, ou bien le 2084 d'un écrivain algérien dont le nom m'échappe. Ça ne veut pas du tout dire que Houellebecq pense que les choses vont se passer comme ça, ni que l'écrivain algérien, qui va d'ailleurs globalement dans le même sens, pense non plus qu'elles vont se passer comme ça. Simplement, ils ont besoin de situer dans une réflexion dans un avenir, et dans un avenir qui est relativement daté. Alors, il y a un exemple ancien qui est tout à fait éclairant, c'est celui de la première anticipation datée que nous connaissions, l'an 2440, Rêve s'il en fut jamais, de Louis-Sébastien Mercier, immense écrivain du XVIIIe siècle, un peu trop négligé, et qui décrit donc en l'an 2440 Paris, qui est devenu alors c'est pas tout à fait une utopie, c'est d'ailleurs littéralement pas un très bon roman, c'est pas tout à fait une utopie, mais enfin c'est devenu Villejardin, c'est là une espèce de démocratie existe, enfin il y a une très grande liberté. Et on voit bien ce que cet écrivain de la dernière partie du XVIIIe siècle veut dire, ce qu'il espère pour l'avenir. Donc encore une fois, ne pensez pas à l'anticipation, c'est la description de ce qui va arriver, c'est la description de ce qu'on peut penser, mais penser au sens le plus large de ce qui peut arriver.
Je suis encore une fois tout à fait d'accord, j'abonde dans ton sens, Gérard. Effectivement, nous autres écrivains de SF, on n'est pas des prophètes, ni des prospectivistes, ni des futurologues. On imagine ce qui pourra arriver à la lumière de ce qu'on sait du présent. On n'est pas non plus des voyageurs temporels venus du futur. Donc on va imaginer, en tant qu'auteur de romans d'anticipation, ce que je revendique un peu être, un futur plausible, crédible, solide, étayé, bâti, je dirais poussé d'après les germes du futur qu'on peut traquer dans le présent, en fait. Moi, quand j'ai écrit à quoi TM sur le changement climatique en 2030 ou 2035, je me base sur mes connaissances de ce qu'est le changement climatique à l'heure actuelle, sur ce qu'est la société à l'heure actuelle, sur ce que sont les changements économiques à l'heure actuelle, le greenwashing, etc., etc., les futures guerres pour l'eau. Bon, voilà, je me documente, en somme. Donc, j'essaye déjà d'avoir une vue à peu près claire et globale du monde actuel tel qu'il fonctionne. C'est pas facile. C'est pas facile, le monde est très complexe. Essayer d'avoir une vue ensemble, c'est un peu une gageure. Parce qu'il ne faut pas oublier que, qu'on écrive de l'anticipation ou pas, ou simplement, j'enlève le mot simplement, effacer, ou de la science-fiction, parce que ce n'est pas simplement. Quoi qu'il en soit, on bâtit des mondes. On construit des univers. Je pense que vous êtes d'accord tous les deux. On bâtit des univers. Ces univers ne se bâtissent pas sur du vent. Ils ne se bâtissent pas sur des rêves. Sauf à faire de la fantaisie très éthérée. Mais ils se bâtissent sur nos connaissances qu'on a du monde réel. Et comment on peut anticiper ces éventuelles transformations, ou comment on va prendre un élément de ce monde réel et en faire la base d'un monde onirique situé ailleurs, plus tard, plus loin. Dans l'anticipation, je dirais que la rigueur de l'auteur d'anticipation, c'est d'être le plus réaliste possible. C'est pas trop laisser de place au rêve, en fait. Donc d'essayer de coller le plus possible au réel. Ceci dit, effectivement, on ne prétend pas dire le futur tel qu'il va être. On prétend juste dire le futur tel qu'on pense qu'il pourrait être d'après ce qu'on sait du présent.
Est-ce que d'ailleurs une anticipation n'est pas le sous-genre de la science-fiction le plus accessible pour les gens qui n'en lisent très peu ? On voit par exemple que, si on prend par exemple que l'exemple du Goncourt où 2084 était cité en favori, qui n'est pas considéré comme un roman de science-fiction, mais qu'on lit plusieurs articles journalistiques, est considéré comme de l'anticipation. Est-ce que ce n'est pas le moyen pour le lecteur qui n'y connaît rien de lire de la science-fiction sans pour autant se...
C'est à la fois attirant et repoussant, en fait. Il y a des lecteurs, je pense, qui vont lire des romans d'anticipation. Enfin, Gérard Klein va peut-être me contredire avec sa grande expérience. Mais moi, je pense qu'il y a des lecteurs qui vont lire des romans comme 2084, que personnellement, je ne connais pas, mais je serais curieux d'y jeter un œil. Parce que, justement, ça part du monde réel. Et d'autres qui vont craindre de lire des romans d'anticipation parce que justement, ça parle du futur et qu'ils ont peur du futur. Donc, ils vont préférer lire de la fantasy ou une science-fiction plus déconnectée du réel, quoi. Enfin, à mon avis.
Ce que je pense, c'est que les mêmes livres, qu'il s'agisse, alors, mais il ne faut pas qu'on se braque là-dessus, des deux titres que j'ai cités, Soumission et 2084, ils peuvent être lus différemment par des lecteurs différents. C'est-à-dire, le lecteur de la science-fiction aura tendance, de façon d'ailleurs largement excessive, en tout cas au moins un peu excessive, à les considérer comme appartenant au champ de l'anticipation sous ensemble de la science-fiction, donc à la science-fiction. Le lecteur de littérature blanche, au contraire, non seulement ne fera pas ce rapprochement, mais évitera soigneusement de le faire, parce qu'il y a, comme tu le disais, deux choses dont il a en règle générale une peur épouvantable. C'est d'abord tout ce qui est scientifique, et ensuite c'est tout ce qui touche au futur, tout ce qui touche à l'avenir. Et ça, j'ai eu l'occasion de le constater, non seulement comme écrivain et comme éditeur de science-fiction, mais aussi comme prospectiviste. Enfin, j'ai beaucoup travaillé dans la prospective, et qui est quand même quelque chose d'assez différent. Franchement différent, les modes de travail et les modes de pensée ne sont pas les mêmes. Une des plus... Très souvent, ce quoi on a à faire en tant que prospectiviste, c'est à la peur du futur du client. Il voudrait que ça soit comme ça a toujours été. Et on essaye de lui dire, attention, il y a plusieurs sentiers de l'avenir possibles. Peut-être il faut se prémunir contre tel ou tel. Alors certains l'acceptent très bien. D'autres insistent, avec une lourdeur que vous ne pouvez pas imaginer, sur « mais dites-nous ce qui va vraiment se passer ». Alors que le prospectiviste, par définition, doit maintenir le champ ouvert. Je voudrais encore dire une chose, c'est que tout ce qui est anticipation, une grande partie de la science-fiction, ça reflète les désirs et les craintes. Désirs et craintes sont les deux faces de la même monnaie, d'un auteur et aussi d'une société à un moment donné.
Oui, je partage la façon de voir de Gérard sur la prospective. Mais quand même, je pense qu'il y a quand même une certaine parenté avec l'anticipation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il existe une frontière. Disons que la prospective, c'est une des limites de l'anticipation. L'autre limite étant plutôt la science-fiction. Alors, tu en dessines une autre, c'est la frontière aussi avec la prophétie. Mais là, je suppose qu'on quitte vraiment notre domaine. Et parce que je pense qu'aucun d'entre nous n'a jamais prétendu dessiner les contours du futur, du vrai futur. Quoi. Tu parlais de deux auteurs actuels. Peut-être toujours dans ce désir de dessiner une limite. Je parlerai de deux auteurs anciens et je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, certainement même. Mais pour moi, la différence entre anticipation et science-fiction, c'est la différence entre Jules Verne et Wells. Était contemporain. L'un imaginait des progrès technologiques, mais sans chercher à voir quelles seraient les conséquences de ces progrès sur la société. L'autre, au contraire, bon, la machine a voyagé dans le temps. On peut voir que on peut penser que c'est un roman de merveilleux scientifique dans la mesure où il y a cette machine. Un peu steampunk qui permet de voyager dans le temps, mais ce qui est important, c'est plutôt sa vision du futur, chose que Verne n'a jamais évoquée. Donc je pense que là, vraiment, il y a une différence importante.
Oui, chez Verne, il y a un évitement systématique des effets sociaux, des inventions qu'il décrit dans certains de ses voyages extraordinaires. Et cet évitement est absolument prodigieux. Je l'ai relevé il y a bien longtemps dans des articles de fiction, et assez bizarrement, la bibliothèque qui remplirait facilement cette salle consacrée à Jules Verne n'y fait pratiquement jamais allusion. C'est la destruction systématique de la merveille scientifique dans les œuvres de Verne. Alors dans le cas du Nautilus, par exemple, il s'y prend deux fois. Il disparaît une première fois dans le Maelstrom, et puis il est détruit une deuxième fois dans l'île mystérieuse. Mais c'est vrai. On voit bien que Verne est paniqué à l'idée que le monopole qui est constitutif de cette invention et du capitaine Nemo, enfin de Robur le Conquérant, etc., que ce monopole pourrait transformer profondément complètement la société dans laquelle il vit. Alors il élimine, il explore les possibilités et puis en même temps il élimine la chose. Et c'est quelque chose qui, s'il y a là un pessimisme profond qui, à mon avis, traverse de façon plus ou moins évidente, mais toute la science-fiction française, toute l'anticipation française et toute la science-fiction française jusqu'à nos jours, enfin depuis le monde tel qu'il sera d'Émile Souvestre en 1843, jusqu'aux œuvres de cet écrivain que j'apprécie beaucoup et qui m'est allé publier, qui est Jean-Pierre Andrevon. On ne fait pas dire qu'il soit d'un optimisme frénétique. En citant en particulier, en passant, les hommes frénétiques d'Ernest Perrochon.
J'avais une autre question, un peu plus éditoriale. Il sort, par exemple, de Fleuve Noir, de la collection Anticipation de Fleuve Noir. N'a-t-elle pas imposé le terme d'anticipation pour de la science-fiction sur une collection qui, au final, n'était pas que de l'anticipation?
Alors ça c'est une question très intéressante parce que je me la suis souvent posée et je n'ai jamais obtenu, ni même vraiment cherché à obtenir une réponse. C'est pourquoi Armand de Caro et François Richard, enfin en tout cas de Caro qui était le patron des Fleuves Noirs, a retenu le terme d'anticipation quand il a créé sa collection. Alors je pense qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est que le terme de science-fiction avait déjà été en quelque sorte préempté par le rayon fantastique, enfin, et par d'autres collections ou revues qui commençaient tout juste à apparaître. Mais la deuxième raison, c'est que c'était le terme le plus couramment usité pour désigner précisément l'anticipation, alors qu'en fait, la collection Anticipation du Fleuve Noir a publié tous azimuts de la science-fiction et, j'oserais le dire, pas toujours la meilleure.
Toi qui as publié plusieurs romans, que veux.
Oui, en effet, le terme anticipation était purement générique. Et moi, je suis arrivé au Fleuve Noir à une époque où on pouvait à peu près publier n'importe quoi au Fleuve Noir. C'était même pas certain que les manuscrits étaient lus, d'ailleurs. Et ce qui m'a permis, d'ailleurs, de publier en 6 volumes une histoire qui, au départ, devait n'en faire qu'un. Mais publier un volume tous les 2 mois, ça portait un salaire quand même pour un auteur, un jeune auteur qui n'avait pas d'autres revenus. Ceci dit, c'était une bonne expérience et bien des auteurs actuellement reconnus et voire célèbres ont fait leurs premières armes au Fleuve Noir. Je pense notamment à Roland Wagner, à Heyerdahl, à Michel Pagel, à des auteurs comme ça. Bon, qui sont devenus des auteurs quand même importants du paysage de la science-fiction française. Et moi-même, même si j'ai commencé avant, je crois que j'ai bien appris à écrire vite et bien. Enfin, bien. Non, bien, c'était après. Vite, en tout cas, des histoires qui devaient être immédiatement compréhensibles. Avant, chez De Noël, je pouvais me permettre, enfin, j'avais l'impression de pouvoir me permettre d'écrire des romans un peu ésotériques, avec des thématiques floues, du genre qu'on appelait peut-être, je sais pas, de nouvelles vagues, limites, enfin voilà, des mouvements comme ça. De science-fiction bizarre qui était aux frontières de la SF, du nouveau roman, de l'expérimentation, de toutes sortes d'écritures. Je pense que Jacques pourra en dire un mot. Le Fleuve Noir, sa seule exigence, c'était de l'écriture directe, de l'aventure au premier degré. Il fallait que ça cartonne et puis que ce soit aussi vite top. Écrit, publié, lu, oublié, tout ça en un temps record. Voilà. Bon, c'est une bonne école. J'ai pas écrit des chefs-d'œuvre au Fleuve Noir. Il y en a certains qui ne verront jamais le jour. Je préviens les collectionneurs que certains ne seront jamais réédités. Mais néanmoins, moi, ça m'a appris à bâtir des histoires. Et moi, c'est ce que je préfère dans la SF. C'est quand même raconter des histoires. Mais
à toi, Jacques.
Non, moi, effectivement, je suis plus intéressé par les territoires limites, en fait, fantasmatiques, etc. Et parce que ce qui m'obsède même le plus, c'est mon rapport à la réalité, en fait. Le fonctionnement de la mémoire, finalement, tout ce qui ressort de l'existentiel, quoi. Pour cela, l'anticipation est plutôt un frein qu'une liberté. Un bouquin comme Ubik de Dick pourrait se passer à n'importe quelle époque, ça n'a strictement aucune importance. Ce qui est intéressant se passe ailleurs, en fait. C'est pour ça que je ne pense pas être un auteur d'anticipation, parce que ce qui m'intéresse ne relève pas d'une époque précise, d'une projection précise, mais plutôt de ce qui ressort de l'humain, en fait. De l'humain et son rapport au monde, son rapport à la mémoire, à la raison. Quelque chose de beaucoup plus général, beaucoup plus étendu.
Dominique, sur ton expérience au fleuve Noir, tu...
J'ai eu une expérience très limitée avec le fleuve Noir. Hein. J'ai un roman qui a été publié en 84, je crois, et qui était vraiment très mauvais. Hein. Si, je ne vous conseille pas de le rechercher chez les bouquinistes. Qui était très mauvais, pourquoi ? Parce que je l'avais écrit très vite, en ayant malheureusement... Alors là, c'est un reproche que je m'adresse, c'est-à-dire que j'avais une piètre opinion du lecteur de base du Fleuve Noir, donc j'avais fait presque sciemment un mauvais roman. Bon, et ça, je m'en veux d'avoir pensé ça, surtout que à l'époque je lisais très peu de Fleuve Noir, donc j'avais une idée préconçue un peu. J'avais lu beaucoup de Fleuve Noir, mais longtemps auparavant. Et là, j'avais l'impression qu'en écrivant un Fleuve Noir sur demande express de Patrick Siri, qui à l'époque dirigeait la collection, je faisais quelque chose d'alimentaire et pour faire plaisir à Patrick Siri. Point final. J'ai découvert après qu'il y avait quand même de bonnes choses dans cette collection. Que pourrais-je dire d'autre ? Je pense que l'histoire de la science-fiction se déroulait quand même ailleurs que dans cette collection Anticipation. Elle se déroulait bien sûr dans la collection Ailleurs et Demain, mais elle se déroulait aussi chez De Noël, chez Kalman Levy ou chez d'autres éditeurs plus confidentiels.
Si, je voulais que, en ce qui concerne précisément cette collection Anticipation du Fleuve Noir, elle a vraiment deux faces. Il y a une bonne face qui est le côté, elle a touché un public assez large, pas gigantesque, mais assez large. Elle a touché un public jeune, elle a probablement amené à la science-fiction un public qui n'y serait pas venu naturellement. D'autre part, comme il a été dit, elle a permis à de jeunes auteurs ou à de moins jeunes auteurs de faire leurs premières armes. Donc ça, c'est le côté positif et de gagner un peu d'argent. Pas beaucoup, je vous rassure, j'en ai fait l'expérience. Je pense d'ailleurs que quand on écrit de façon alimentaire, pardonne-moi Dominique, c'est quand même essentiel de rester très professionnel. Dans les 5 romans que j'ai écrits pour le Fleuve Noir, très jeune d'ailleurs, j'ai essayé d'écrire les meilleurs romans populaires, enfin simples, mais professionnellement bien faits. Bon. Et il y a l'aspect noir du Fleuve Noir, c'est qu'il a enfermé des auteurs, et en particulier toute une génération d'auteurs, dans le livre vite fait et le chèque vite encaissé. Et dans Ailleurs et Demain, comme je souhaitais publier des auteurs français, j'ai approché un certain nombre de ces auteurs en leur demandant s'ils ne pouvaient pas suivre l'exemple de Dick, par exemple, et de faire quelque chose de beaucoup plus élaboré. Je pense nommément, par exemple, à Roland Wagner, à qui j'ai demandé plusieurs fois de faire quelque chose pour moi. Mais il était toujours en train de boucler, de bâcler un roman pour le Fleuve Noir, parce que c'était le SMIC. Alors ça, toutes les formes d'assistance de cette nature ont un avantage. Ça permet aux gens d'éviter de crever de faim. Ça a un inconvénient. Ça les enferme dans une espèce d'assistanat.
Je voudrais quand même dire un mot aussi de ce qui, pour moi, mais je parle sous le contrôle de Gérard, ce qui pour moi est le rôle réel d'un éditeur. Le rôle d'un éditeur, c'est pas seulement de publier des bouquins, c'est de faire en sorte que les bouquins qu'il publie soient le meilleur possible. Or, moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas connu ça au Fleuve Noir. Je vais me permettre de vous asséner des souvenirs personnels qui sont pas obligatoirement très 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 agréables pour moi, mais lorsque j'ai écrit mon premier roman, je l'ai proposé à Gérard qui venait de créer quasiment sa collection, qu'il a refusé. Bien sûr, j'avais quelques espoirs, mais ils ont vite été éteints. Mais ce qui est précieux, c'est que ce refus s'est accompagné d'une lettre que j'ai gardée, je l'ai toujours, c'est une lettre de 2 pages manuscrite où tu dissèques le manuscrit que je t'avais soumis. Et voilà. Et du coup, j'ai compris pourquoi tu le refusais. Et j'ai essayé d'en tirer les conséquences pour la suite. Et ça n'a pas été la suite. Ça n'a pas été la seule expérience malheureuse que j'ai eue avec toi, puisque à 3 reprises dans mon existence, j'étais soumis à un manuscrit. Non, mais chaque fois. Voilà. Non, mais je peux pas. Si je le raconte, c'est parce que c'est quelque chose que je ne peux pas reprocher à Gérard, dans la mesure où chaque fois le refus était accompagné des explications nécessaires. Donc j'étais bien obligé de les admettre, même si c'était douloureux. Mais voilà, ça c'est le vrai travail. On est peut-être hors sujet, mais je pense que c'est important à préciser. Le rôle réel de l'éditeur qui tend, je le regrette, mais à disparaître petit à petit.
Je pense qu'un bon éditeur a effectivement au moins 3 fonctions. La première, c'est d'aider l'auteur qu'il retient, qu'il a retenu le manuscrit, à produire le meilleur manuscrit possible. La deuxième fonction qui est importante, c'est de faire connaître le mieux possible le livre en question à partir du moment où il l'a publié. Mais la troisième qu'il ne faut pas négliger, à laquelle j'ai attaché beaucoup d'importance dès le début d'ailleurs et demain, c'est donner à cet auteur, autant qu'on peut raisonnablement faire, les moyens de vivre enfin et de travailler. Alors, en ce qui concerne le Fleuve Noir, il y a eu plusieurs époques. Moi, je dois dire, j'ai connu l'époque Brantone, donc la première époque. Et quand j'ai remis mon premier roman au Fleuve Noir, un petit peu cédant, pas aux sollicitations, mais enfin à l'exemple de mon ami André Rouelland, alias Kurt Steiner, tout roman auquel j'avais donné un titre assez catastrophique, Chirurgien d'une planète, ce roman a été pris, il a été lu très attentivement par François Richard, qui m'a d'abord dit c'est beaucoup trop long, alors j'ai entrepris de le couper, j'y arrivais pas bien, et il l'a fait. Et quand j'ai réédité sous le titre Le rêve des forêts, ce premier roman, que j'ai repris l'ancien manuscrit, je me suis aperçu que Richard avait eu entièrement raison. Il y avait peut-être un tiers à peu près de la longueur qui avait disparu, et il avait entièrement raison. Il avait fait son boulot d'éditeur. J'ai essayé de le faire avec un certain nombre d'auteurs. Un auteur avec qui je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, enfin en tout cas pas comme ça, ça a été Michel Jury. Alors si je peux citer Michel Jury là, c'est parce que je lisais très attentivement ses manuscrits, puis je lui disais à la page 182... il y a un petit truc qui ne va pas tout à fait, tu pourrais peut-être le modifier, ou un paragraphe, etc. Alors Michel ne répondait pas, et 3 mois après, je recevais un manuscrit entièrement refait. Je ne lui avais pas demandé du tout. C'est vraiment un petit bazar qu'on aurait pu régler. Et ça m'est arrivé avec lui 5 ou 6 fois. Mais enfin, donc, dans cette première période, qui n'est pas toujours glorieuse, Grimigueux, enfin, quelques, mais il y a eu quand même d'assez bons livres, qui n'est pas toujours glorieuse, il y a eu une attention portée au texte. Quand on est passé à la série blanche du fleuve noir, si je puis dire, avec Patrick Siri, etc., il me semble que ça s'est complètement évaporé. Il n'y avait plus aucune. Il prenait un peu n'importe quoi, il le sortait. Et évidemment, ça s'est terminé par une catastrophe. Mais tu peux peut-être parler mieux que moi.
Je confirme. Je suis arrivé au fleuve noir à l'époque de Nicole Hibert, qui était quelqu'un d'éminemment sympathique, mais qui, je crois, ne lisait pas les manuscrits. Donc, elle signait sur synopsis, enfin, en ce qui me concerne du moins, et je pense en ce qui se concerne mes camarades de l'époque, elle signait globalement sur synopsis, voire sur une idée griffonnée sur un coin de table. Et elle faisait entièrement confiance aux auteurs et publiait. Et ce qui fait que plein d'auteurs se sont mis à faire des séries interminables, à étirer à la ligne au maximum, parce que bon, c'était payé 15 000 francs le manuscrit quand même, hein. Et donc, si on pouvait en sortir un tous les deux mois, comme tu dis, ça assurait un SMIC. Voilà. Et ça a coulé Fleuve Noir, et ça a coulé un certain nombre d'auteurs également. Mais ceux qui en sont sortis, à mon avis, se sont mis à écrire de bons livres après ça. Moi, en tout cas, à un moment où je me suis dit stop, je me suis dit, là, je suis en train de pisser dans un violon, en fait. Ça ne sert à rien, ce que je fais. Mes bouquins, ils partent au pilon deux mois après être mis en vente, ça sert à rien. Je vais gagner ma vie autrement, ça va être dur, je vais galérer, et je vais prendre le temps qu'il faut, et je vais faire des bons livres. Et ça a donné La mort peut danser, Djihad, Inner City, Aqua, etc. Des romans qui ont tous eu des prix par la suite. Au fleuve noir, aucun roman risquait d'avoir le moindre prix. Mais je pense qu'on a pas mal digressé du sujet.
Pour revenir sur le sujet, moi j'avais une petite question. En tant que lecteur, est-ce que vous lisez de l'anticipation ? Et si oui ou non, est-ce qu'il y a au moins un titre d'anticipation qui vous reste en mémoire pour le public ?
Je pense que la plupart des romans et beaucoup de nouvelles de Robert Heinlein relèvent de l'anticipation et ils sont généralement de très grande qualité, sauf les tout derniers qui sont un peu particuliers. Mais c'est véritablement un auteur d'anticipation qui a essayé de décrire la conquête de l'espace. Enfin, ça s'est pas passé tout à fait comme il l'avait prévu. Mais enfin, c'est quelqu'un qui très délibérément a voulu faire une histoire du futur. Mon ami, hélas défunt, Michel Demuth, qui a également fait de l'anticipation, essayé de décrire une histoire du futur dans ce sens-là. Oui, on en lit toujours, et j'en lis tous les jours. Maintenant, je lis aussi de la science-fiction, qui, à proprement parler, ne relève pas de l'anticipation.
Oui, dans un genre classique, l'histoire du futur de Robert Heinlein, qui fait justement écho à Demuth, et effectivement les galaxiales de Demuth. Et ce qui m'intéresse chez Demuth, c'est que c'est effectivement de l'anticipation, mais très poétique, avec une charge poétique très forte, un style très fort et très, très intéressant. Voilà.
Dominique. Oui, s'il faut parler de lecture actuelle, je ne vois guère que Houellebecq que je peux lire, qui écrit de l'anticipation. Parce que les livres que citaient Gérard ou Jacques, c'est des livres que j'ai lus il y a déjà pas mal de temps. Alors, je les ai appréciés, hein, je ne veux pas dire que je ne les aimais pas, mais non, actuellement, je vois guère oui, que Houellebecq.
Moi, non. Enfin, je crois pas. Du moins, je me pose pas vraiment la question, en fait. Moi, je lis des auteurs que j'ai envie de découvrir. Donc, français de préférence, ou francophone, mais parfois américain aussi. Donc, non, je pense que je suis plutôt dans la science-fiction... plus général, avec, je sais pas, Au Mal de Laurent Genefort ou Quantica de Laurence Sunner ou Futur Dmitri Glukhovski, qui peut être de l'anticipation, ceci dit. Mais c'est ce roman futur est tellement improbable, est tellement... il est crédible, enfin, il est prenant. Une fois qu'on est dedans, on est pris dedans. Dans le futur, on imagine que ça se passe en Europe, dans un futur 2100 et quelques. Et ça traite de la surpopulation, en fait. Il y a des dizaines de milliards d'êtres humains sur Terre. Et l'Europe entière est une mégalopole de tours de plus de 1000 étages. Ça, j'ai déjà... Sérieusement, j'ai du mal à le concevoir, mais admettons. Et en fait, l'humanité est immortelle. Seulement, l'immortalité a un prix. On a le droit d'être immortel que si on ne conçoit pas d'enfant. Et si on conçoit un enfant, on doit le donner aux autorités. Et on perd son immortalité, donc on devient mortel. Soit on évite d'en faire, quoi, en fait. Et si on conçoit un enfant dans l'illégalité, cet enfant est enlevé, il part dans des internats, son destin est assez funeste, et puis on perd de toute façon son immortalité, sinon sa vie. Et donc c'est l'histoire d'un mercenaire qui est chargé de traquer les illégaux, ceux qui font des enfants illégalement, jusqu'à ce qu'il se rende compte que lui-même a fait un enfant illégal à une rebelle. Donc il devient lui-même traqué, etc. Mais le principe de base, l'Europe recouverte de tours de 1000 étages, pour moi, c'est inconcevable. C'est pas réaliste, quoi. Même en supposant que l'humanité, que la Terre abrite 15, 20, 30 milliards d'habitants, je ne sais combien, le problème de la surpopulation va se résoudre d'une autre manière, à mon avis. Enfin, moi, j'ai une approche de l'ASF qui tend à être réaliste. Moi, j'aime bien les histoires qui sont ancrées dans le réel, quoi, et qui sont des continuités logiques de ce qu'on vit actuellement. Ça ne veut pas dire que j'arrive à tout prévoir, évidemment. Mais, j'ai beaucoup aimé ce roman, quand même, en choisissant de croire au postulat de départ de ces tours de 1000 étages qui couvrent l'Europe entière, voire le monde peut-être. Et je dirais que c'est un des postulats de la science-fiction et de l'anticipation, c'est de rendre les choses crédibles. Pour moi, la science-fiction en général, c'est une littérature qui doit être crédible. On doit... Je pense qu'on a obligation en tant qu'auteur, vu qu'on va imaginer un monde futur forcément imaginaire, forcément inventé, de l'asseoir sur des bases solides, réelles, réalistes, pour qu'on puisse pénétrer plus facilement dans ce monde. Moi, je sais que j'ai du mal à lire des histoires qui n'ont aucune connexion avec le réel, quoi. Ça, j'ai beaucoup de mal. Je ne peux pas lire de la fantasy, par exemple. Et je peux lire du roman fantastique, parce qu'il est ancré dans le réel. Même si le propre du fantastique, c'est à la base de décrire une faille dans le réel. Tout d'un coup, il y a une faille. Voilà, un fantôme intervient. Le diable surgit. Un élément inexplicable arrive. Votre grand-mère décédée apparaît dans votre télé. Enfin bon, il se passe un truc bizarre, mais à la base, on est dans la réalité. Pour moi, la science-fiction que je préfère reste ancrée dans la réalité. Même si c'est du space opéra, quand il cadre Laurence Sunner avec sa planète de glace et puis son espèce d'arche qui mène vers un monde parallèle, c'est très poétique, c'est très joli. Mais c'est crédible. C'est expliqué par la mécanique quantique. Il y a des explications. Cette colonie terrienne est très crédible. Son monde de glace tient la route parfaitement. Donc, j'adhère totalement. J'y vais sans problème. Ou les seigneurs de l'instrumentalité, autre histoire. Ça, c'est encore plus bizarre parce que c'est des légendes du futur qui sont déjà très lointaines, qui viennent déjà d'un passé lointain dans un futur très lointain. Et ça, c'est un pur ovni dans le monde de l'ASF. Et là, j'ai vraiment l'impression que quand Ernest Smith, oui, lui, il venait du futur. Mais il ne nous a pas raconté l'histoire du futur, il nous a raconté la légende du futur. Et ça, c'est très beau.
Il nous reste quelques minutes. S'il y a des questions dans le public, c'est le moment.
Oui, bonjour. Je voulais avoir, je suis pas du tout experte, hein, mais je voulais avoir une idée du coup des, comme vous disiez, des craintes et désirs de la société actuelle ou des sociétés actuelles. Parce que vous avez évoqué Welbeck, 2084, je crois que l'Algérien s'appelle Sansal ou quelque chose. Ça parle d'un extrémisme religieux. Je sais qu'il y a des romans climatiques, du coup à visée climatique, mais est-ce qu'il y a des perspectives, des craintes et des désirs qui sont un peu différents de ces deux thématiques actuellement dans les romans d'anticipation ?
Ouais, je crois qu'il y en a. Il faut lire de la science-fiction pour les découvrir. Et il y en a dans tous azimuts. Bon, pour reprendre un thème qui vient d'être évoqué par Jean-Marc Ligny, l'allongement de la vie est quelque chose qui est très présent dans beaucoup de textes de science-fiction actuels. Et en plus, c'est quelque chose d'extrêmement vraisemblable. Je suis absolument convaincu que je suis né beaucoup trop tôt, que si j'étais né 30 ans, si j'avais votre âge, par exemple, et vous êtes très jeune, j'aurais toutes les chances de vivre jusqu'à 150 ans. Et mon problème, c'est que j'ai de quoi faire jusque-là. Je demande 50 années de plus pour commencer, on verra après. Donc c'est un exemple de désir, et qui est parfois d'ailleurs exprimé sous forme de crainte. Il se trouve, je me suis amusé à faire des simulations démographiques, enfin très 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 basiques, et imaginons que 10% des morts actuelles, c'est-à-dire de l'ordre de 300 000 pour la France, annuelle, n'arrive pas. Bon, qu'il y ait 30 000 personnes qui vivent beaucoup beaucoup plus longtemps. Démographiquement, ça ne change rien avant 30 ou 40 ans. Ça ne change rien de sérieux. Si vous voyez. Les mouvements naturels, et en particulier l'immigration, sont beaucoup plus importants que cet ordre de grandeur. Il y a extrêmement peu de chances que la totalité de l'humanité vive 150 ans, ou en tout cas éternellement. Mais si même une proportion importante parvenait à allonger consciemment sa vie, ça changerait certainement profondément le monde, peut-être dans un sens plus conservateur. Enfin, ça, c'est un autre débat, et beaucoup d'auteurs en ont parlé. Mais ça ne serait pas un bouleversement phénoménal. Au cours des 150 dernières années, enfin, ou des 200 dernières années, l'espérance de vie en Europe, et en particulier en France, a été multipliée par deux. Nous ne considérons pas ça comme une catastrophe. L'Europe a connu de très grandes catastrophes au XXe siècle, pas celle-là. Je vais ajouter une petite anecdote sur cette histoire de l'allongement de la vie. C'est que j'ai publié d'un de mes amis, un médecin américain, Roald Forn, deux livres sur le thème justement allonger la vie à une époque où on avait beaucoup, beaucoup moins de possibilités envisagées qu'aujourd'hui. Et un jour, on déjeune et je lui demande jusqu'à quand est-ce que tu imagines qu'on pourra allonger la vie ? Ah, il me répond aussi sec, 600 ans. Je lui dis, pourquoi 600, pourquoi pas 700, 800, ou 150, ou 200, pourquoi 600? Et il me répond, simplement, c'est parce que les statistiques des compagnies d'assurance montrent qu'à ce moment-là, tout le monde serait mort d'un accident.
Une autre question?
Je commence par une toute petite remarque, je me permets, monsieur Ligny, vous avez cité Star Wars comme de l'anticipation, mais en fait, au début du film, c'est écrit il y a très très longtemps, dans une galaxie très lointaine. Voilà, c'est juste une petite remarque, donc je classerai plus ça dans de la fantasy, je me permets. Mais sinon, ma question était, est-ce qu'on pourrait pas diviser l'anticipation en deux courants, si on peut dire, c'est-à-dire un courant de science-fiction, par exemple les tours de 1000 étages dans un futur plus ou moins lointain, et puis un courant plus réaliste qui reflète réellement la société actuelle et qui reflèterait aussi l'engagement de ces auteurs, et là je m'adresse encore à vous du coup, monsieur Ligny, vraiment, il y a un engagement presque pamphlétaire, qui sait, on veut dénoncer quelque chose qui nous chagrine dans la société actuelle. Et on peut très bien remonter jusqu'à Jules Verne, Paris au XXe siècle, qui lui aussi dénonçait finalement la fin du XIXe siècle. Est-ce que c'est pas un engagement, en fait? Voilà, la vraie question, c'est est-ce que ça reflète pas votre engagement?
Moi, je pense que, effectivement, d'écrire de l'anticipation, a priori, c'est s'engager. Quelle que soit la forme qu'on lui donne, qu'on essaye d'être le plus réaliste possible et de coller à la réalité le plus possible, ce qui est mon optique à moi, ou qu'on s'affranchisse un peu cette réalité pour aborder un problème crucial, qui va devenir crucial, qui est la surpopulation, à la façon de Dmitri Glukhovski avec ses tours de 1000 étages. Je dirais que c'est forcément un engagement. C'est pas deux courants spécifiques de l'anticipation. C'est deux façons d'aborder les choses, en fait. Une façon qui colle au réel, genre la peinture hyper réaliste ou la photographie reportage, et une façon plus onirique qui va donner des paysages plus flous, peut-être, mais mettre l'accent sur un sujet particulier. Quant à l'engagement, voir l'aspect pamphlétaire, je revendique l'engagement, mais je réfute l'aspect pamphlétaire. Ce genre d'anticipation n'est jamais un tract ni une dénonciation, du moins pas avouée. C'est pas genre il faut agir comme ceci pour éviter ça, il faut faire la révolution, etc. Enfin, en tout cas, dans mon optique à moi, je décris une situation. J'essaie de décrire la situation de la façon la plus réaliste possible. Après, chacun se fait son opinion. Mes héros sont pas des héros avec un H. Ils sont pas des porte-parole. Ils sont pas des personnages sans tâche qui vont amener la bonne parole dans les chaumières et dans les contrées reculées. Ils ont leurs qualités, leurs défauts. Ils ont leur erreur de jugement, ils peuvent se tromper. Des fois, ils font même carrément des conneries. Et de même que les méchants ne sont pas d'horribles capitalistes sans foi ni loi, ils peuvent être très sincères dans leur méchanceté, si je peux dire. J'essaye de faire des constats, en fait. Mes romans essayent plutôt d'être genre d'instantané, de cliché du monde à une époque donnée, telle que, évidemment, moi, je l'imagine. L'intérêt, c'est que ça me permet de mieux comprendre le présent et peut-être au lecteur de mieux comprendre dans quel monde il vit. Le danger, c'est que à écrire dans un futur proche, ces bouquins deviennent périmés dès lors qu'on a atteint le futur en question. Là, je vois... vont être réédités très prochainement Jihad et Inner City, écrits respectivement en 96 et 98. J'ai relu Inner City. Bon, ça va, ça tient encore la route, mais j'ai quand même effectué quelques corrections, parce que 20 ans d'Internet entre les deux, ça laisse des marques. Quant à Jihad, qui parle d'État islamique, qui parle d'accointance entre l'extrême droite et l'extrémiste islamique, je le laisse rééditer tel quel. Je ne veux même pas le relire, en fait. Parce que je pense que soit il est encore plus actuel qu'il l'était, soit il est en deçà de la réalité. Et j'ai peur dans les deux cas d'être déçu.
On va vous remercier d'être venu aussi nombreux. Il est déjà 20h et on vous remercie d'être venu en cette journée pour le festival. Bonne soirée à vous.
Merci.